Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes à ce nouveau rendez-vous, à la rentrée de Popol. La rentrée de Popol, j'ai le grand plaisir de faire cette... On va recommencer. La rentrée de Popol, je suis pas prête pour la rentrée, je crois. J'ai le grand plaisir de pouvoir la faire avec Estelle Gianjo.
Salut Léa.
Comment ça va ?
Ça va bien, merci. Bonne année.
Ah bah oui, du coup, bonne année. Ouais, on est le 5 janvier, on a encore le temps de se le dire. Qu'est-ce que tu souhaites pour cette année ?
J'espère pouvoir travailler sur ma santé mentale. J'espère pouvoir arriver à me mettre des limites dans le travail. Et j'espère pouvoir équilibrer tout ça. Parce que quand on est pigiste et quand on est journaliste indépendante, ça peut être un peu compliqué.
Je sais tout à fait de quoi tu parles. It rings a bell, comme on dit. On va te présenter quand même, parce que moi je te connais, mais toutes les personnes qui nous écoutent, peut-être ne te connaissent pas encore et elles ont bien de la chance de pouvoir te découvrir grâce à ce podcast. Tu es journaliste indépendante, radio, podcast, presse écrite. Tu réalises notamment des documentaires, ça on en parlera un peu plus tard au cours de l'échange. Et t'es plutôt une journaliste engagée, est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Oui, bien sûr, je suis une journaliste qui met en avant le fait d'être conscientisée. J'aime aussi le fait de dire qu'on n'est pas en fait neutre. De toute façon, ça c'est vraiment du BS, c'est du bullshit journalistique de penser qu'on peut être neutre. On aura l'occasion de parler de mon association Lajar, mais c'est un peu notre leitmotiv, c'est de dire qu'en fait on a tous des biais, on part de quelque part, et qu'en fait à partir du moment où on explique au public, au lectorat d'où on parle, et ben en fait, on peut avoir une meilleure lecture de notre travail.
C'est terrible, tu me tends plein de perches, genre toutes les questions que j'avais envie d'aborder, toutes les thématiques, tu m'as déjà tendu les perches, mais on va quand même suivre un petit, une petite structure. On va commencer par parler de ton travail. Donc je disais, tu es journaliste radio, podcast, etc. Et tu as réalisé l'année dernière, en mai, si je dis pas de bêtises.
Mai 2022. 23, on est déjà en 2024.
Et ouais.
Quelle horreur!
Tu as réalisé donc un documentaire qui a été diffusé sur RFI qui s'appelle Une Afropéenne en Pays Sawa. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
Oui, Une Afropéenne en Pays Sawa. Donc, c'est vraiment le podcast original vraiment que j'ai sorti. Mon premier, parce que je bosse pour beaucoup de studios de podcast. J'ai bossé pour beaucoup de studios de podcast avant. Et ça, c'est vraiment mon petit bébé parce que c'est le podcast le plus intime que j'ai fait. Je suis retournée au Cameroun, donc le pays de mes parents, en fait, pour faire une sorte d'enquête, à la fois voyage initiatique, autour de la cérémonie donc du Ngondo, donc, qui est une cérémonie ancestrale qui est célébrée donc, chaque année, fin novembre, début décembre, auprès donc, du peuple Sawa, dont je suis donc issue par mes deux parents. Donc c'est le peuple côtier du Cameroun, et en fait c'est des cérémonies qui célèbrent notre lien avec l'eau, le fleuve, l'océan Atlantique, parce qu'on est tous des peuples de pêcheurs, en fait. Et ce qui fait que moi, je voulais un petit peu interroger ce rapport entre ce culte-là des ancêtres et de l'eau avec les questions environnementales. Parce qu'en fait, le fleuve Vouri et en fait, toute la côte en fait, est particulièrement polluée par différentes... Que ça soit, alors, principalement, c'est les bouteilles en plastique et tout ce qui est déchets. Mais il y a aussi les usines, les très grosses multinationales qui déversent des produits chimiques, des métaux lourds dans le fleuve. Ce qui fait que... ça chasse les populations évidemment côtières vers la ville qui essaient de trouver du travail parce qu'ils peuvent plus effectivement vivre de leur pêche. Et ça, en fait, pour moi, c'était quelque chose d'important parce que le début de mon podcast commence avec... Le prologue commence avec mon père, mon papa, qui est plus tout jeune quand même, donc qui a connu un Cameroun dans les années 50-60 où clairement, en fait, les gens vivaient encore de la pêche parce qu'il n'y avait pas encore... les usines étaient déjà là parce que la colonisation était déjà implantée, l'exploitation des terres, mais il y avait encore... les eaux étaient encore poissonneuses, pour reprendre son terme. Et en fait, il y avait ce côté un peu nostalgie que je voulais... je voulais voilà, revenir sur cette espèce de Cameroun que je n'avais jamais connu, parce que moi je suis allée plusieurs fois au Cameroun lors de ma vie, hein, mes parents nous ont toujours ramenés au Cameroun. J'ai toujours connu un Cameroun qui était quand même assez pollué. Douala, nous on n'est pas originaire de Douala, on est originaire d'Edea dans le sud, à 2 heures au sud de Douala. Mais à Douala, la capitale économique, c'est un four, parce qu'en fait c'est une ville qui est bétonnée et qui a été construite dos au fleuve. Donc c'est vraiment totalement contre nature, parce qu'en fait tout le peuple et tout l'environnement est censé être tourné vers le fleuve. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, c'était aussi un moyen, ce podcast, de parler d'écologie du point de vue des pays du Sud. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été très important, parce que quand on parle d'écologie, c'est vrai qu'il y a un regard qui est très blanc, qui est très occidental. Et pour moi, c'était important d'y aller. Alors attention, moi, je suis aussi... Je suis française, je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc je me place aussi d'un point de vue privilégié. Je me place d'un point de vue de fille d'immigrée. Donc d'où le terme « binguiste ». Donc le mot « binguiste », c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour désigner au Cameroun les personnes qui viennent donc d'Europe. Et moi, c'est un terme que j'ai voulu revendiquer aussi, parce que c'est pas seulement une enquête autour de la dégradation de l'environnement, c'est aussi un voyage initiatique personnel sur le fait de retourner voir la terre de mes parents, de mieux la comprendre, de savoir est-ce que je peux être acceptée aussi comme je suis, c'est quoi ma place aujourd'hui au 21e siècle, en 2023-2024, en tant que fille d'immigrée française. Et moi, j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables qui luttent aussi pour une forêt communautaire, pour allier le social et l'écologie, des gens qui montent les usines de recyclage, qui traitent les déchets, mais de manière infime, parce qu'il n'y a que pour le faire. Mais ils le font quand même. Et donc moi, j'avais l'impression d'avoir en face de moi des colibris, mais vraiment dans le premier sens, vraiment le premier sens du terme. Et donc oui, je me suis sentie extrêmement reconnaissante d'avoir pu faire ça. Je me sens extrêmement reconnaissante d'avoir pu diffuser ce voyage-là aussi sur RFI, parce que RFI, c'est pas n'importe quel média, c'est un média qui est très écouté sur le continent. Et donc moi, personnellement, quand j'ai sorti ce podcast, mes parents étaient très fiers, les gens dans ma famille m'ont beaucoup contacté, et même des inconnus camerounais que j'ai croisés m'ont dit « Mais c'est vous, la fille d'Erifi ?» Non, je suis journaliste indépendante, mais c'est vrai que maintenant ça me colle un petit peu à la peau.
Ouais, et puis il y a un autre aspect moi j'ai trouvé très intéressant dans ce documentaire, c'est la jeunesse. Parce qu'effectivement, tu disais, t'apportes un autre regard sur l'écologie, tu montres qu'il y a plein de choses qui se font pour préserver justement la biodiversité, etc. Mais il y a aussi un énorme travail qui est fait auprès de la jeunesse.
Ouais, c'est vrai que j'ai... Alors, François Dikoumé, qui est donc mon personnage un peu fil rouge, donc il a 33 ans, 34 aujourd'hui, c'est un peu cette espèce de dernier des Mohicans, comme j'aime un peu dire, qui essaie de se battre pour préserver la culture et qui, en fait, a une pépinière de jeunes. Donc, quand on dit jeunes, c'est des primaires, 8 à 10, 12 ans, à qui il essaie d'enseigner notamment l'art de la pagaie, mais aussi les danses ancestrales, et évidemment de transmettre aussi son engagement écologique. Donc il y a ça, il y a aussi le fait, j'ai interviewé mon propre cousin qui a 23 ans, d'ailleurs qui, fun fact, qui est arrivé en France là il y a quelques mois pour faire ses études, et qui effectivement avait un discours assez, on va dire assez... pas défaitiste, mais assez négatif sur le fait que ses parents ne l'avaient pas forcément transmis toutes ces valeurs-là autour de l'environnement, autour de la culture, et qu'en fait, il était assez symptomatique de cette jeunesse urbaine africaine qui vit effectivement, qui essaie absolument de se battre pour avoir des petits boulots, pour que leur diplôme serve à quelque chose, parce qu'il y a un taux de chômage qui est très important, et je trouvais ça intéressant de l'interroger, surtout qu'en plus je suis allée aussi dans un lycée où effectivement il y a une prof que j'adore, qui en fait a envie de transmettre à la fois cet engagement environnemental à ses élèves, donc lycéens, en leur disant concrètement, et ça je trouvais ça encore une fois très intéressant, c'est que eux ils sont vraiment dans une survie, dans un besoin d'emploi, de subsistance, et pas capitaliste, et dans le sens où c'est pour pouvoir bien vivre, tout simplement, et elle essaie de dire, mais en fait c'est possible d'allier les questions environnementales avec le fait d'avoir un emploi et de dire c'est l'emploi de demain, donc on va y arriver. Personne ne va nous aider, et ben on va essayer quand même de s'inventer des choses. Donc elle a tout un petit marché écolo, avec à la foire de Douala où elle vend différents produits écolo. Donc ne serait-ce que ça, c'est des tout petits, c'est des tout petites initiatives, mais qui qui mettent du plomb à la cervelle à tous ces jeunes qui se disent non mais en fait c'est important et il faut continuer quoi.
Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce documentaire, au-delà bien sûr du sujet que tu traites et des personnes qui sont interviewées, c'est la dimension personnelle que tu arrives à intégrer. En fait, on part vraiment de ton récit. On est à la fois dans l'enjeu politique de la préservation de l'environnement, etc., et de la sensibilisation des jeunes, de tout ce qui est mis en place, notamment par les personnes que tu rencontres. Mais il y a aussi cette dimension très personnelle. Tu parlais de parcours initiatique tout à l'heure,
ouais.
Qui est assez inédite, en fait. C'est vrai qu'on a l'habitude, maintenant, c'est quelque chose qui est très... qui est très présente, tu vois, dans des studios de podcast type Louis Media, etc., qui ont l'habitude de laisser une très grande place au récit,
ouais.
Dans la partie documentaire. Mais c'est quand même assez rare, voire quasi inexistant, dans des médias plus traditionnels. Et j'ai été assez surprise de voir comment tu as réussi à intégrer ça chez RFI, en fait.
Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que donc moi j'ai été accompagnée par Simon De Creuse, Vanessa Le Trône et Steven Jambot, et en fait ça a été vraiment une dream team qui a tout de suite dit oui à mon projet, peut-être effectivement parce qu'il y a cette originalité là, mais aussi parce que en fait je suis la première concernée par mon sujet. Et encore une fois, quand par exemple, on avait un petit peu, quand on prépare ce genre de podcast et surtout de voyage, il y a beaucoup de préparation en amont, il y a une trame. Et l'idée, c'était à chaque fois d'essayer de mettre un petit peu de moi aussi, de moi-même. Et le truc, c'est que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je suis quelqu'un qui a tendance à être très
expansif.
Je suis quelqu'un qui est très expansif avec les gens. Quand j'aime beaucoup rencontrer les autres et en fait je prends beaucoup de place, ce qui fait que ça a été un peu le running gag en préparant le podcast Une Afropéenne en Pays Sawa, c'est de dire est-ce que Estelle va être capable de laisser juste le micro et les gens parler sans rigoler derrière ou bien sans rebondir ou sans faire de blagues ou quoi que ce soit. Et au final. Pour moi, c'est ce qui fait aussi peut-être le petit côté charme de mon podcast, parce qu'en fait, je suis restée aussi moi-même, c'est-à-dire que parfois, je me positionne clairement avec des bottes journalistiques, où voilà, j'ai un ton journalistique, j'ai un ton sérieux, grave. Mais là, j'ai rencontré des gens qui n'allaient peut-être pas adhérer au fait d'avoir un truc aussi sérieux, même si pour eux, RFI, c'était important. Mais moi, j'étais beaucoup plus détendue dans ma manière de les aborder. Notamment, je pense à quand je suis allée à l'île de Djibalé, qui est une île qui est au nord de Douala et qui est très connue pour être l'île d'où sont originaires les parents de Kylian Mbappé. Donc, c'est une île fluviale qui est magnifique, vraiment. Et quand je suis arrivée, les gens étaient un peu curieux de nous voir. Donc, on a tous discuté. Et puis après, ça a fini en rigolade, en visite. Et je me suis dit, mais j'ai pas besoin de faire ma journaliste de la BBC qui vient observer les gens dans leur environnement naturel, parce qu'en fait je viens aussi, mes parents viennent aussi de cet endroit, donc il y avait aussi une part de moi-même qui voulait être acceptée par les autres, donc d'être aussi une fille du pays, donc parfois d'être un peu dans un certain mimétisme camerounais que je connais aussi, que j'ai intégré parce que j'ai grandi dans cet environnement-là, mais du coup ce qui fait que j'ai un côté un peu plus cool, un peu plus détendu. Et c'est vrai que avant de commencer l'interview, on parlait du fait que parfois j'arrivais à souffler, à dire oh bon la journée est terminée enfin. Et en fait je me suis fait engueuler par les responsables de RFI qui m'ont dit non mais Estelle, c'est vraiment moderne hein, comme manière de faire, est-ce qu'on va pouvoir regarder ça, on va voir hein. Mais en fait c'était aussi une volonté de Simon De Creuse et de Steven Jambot. Il me disait non mais à chaque fois que tu rentres, enregistre tes impressions, ce que tu ressens, parce que le podcast c'est beaucoup de ressenti. Donc ce qui fait que j'avais un petit journal de bord où je mettais un peu mes coups de cœur, mes coups de voilà. Et surtout il faut bien se dire que c'était beau, c'était très émotionnel pour moi tout ce voyage aussi, donc c'est très chargé. J'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de moments très forts, et c'était important pour moi de pas paraître détaché en fait. Donc voilà.
Ouais, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et bravo d'avoir réussi à le placer dans un média plus mainstream, quoi, plus traditionnel. On a moins l'habitude. quand tu travailles comme ça, cette capacité du coup de partir de ce récit individuel et de dézoomer, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient notamment, je sais qu'il y a beaucoup d'afro-féministes américaines qui ont fait ça énormément, je pense bien entendu à Bell Hooks, je pense à plein d'autrices qui ont vraiment mis le récit au cœur même de leurs travaux, que ce soit de recherche ou d'autres journalistes, etc. Quelles sont tes inspirations à toi quand tu travailles sur un sujet où tu places le personnel au centre même du récit pour un peu dézoomer et en faire un sujet vraiment politique?
Mon inspiration principale, en vrai, c'est le travail de Michaela Cole. C'est donc une actrice, metteuse en scène, réalisatrice britannique, dont les parents sont originaires du Ghana, et qui a donc fait l'incroyable série donc Chewing Gum et I May Destroy You, qui ont pour moi été... I May Destroy You sorti en 2020, et j'ai mis beaucoup de temps à le regarder. Il fallait que je sois prête mentalement parce que bon, ça parle de violence sexuelle, donc il y a un énorme trigger warning. Elle arrive à mettre en fait le récit à la première personne, mais en fait ça se transforme très vite en récit universel. Et pour moi, je trouve que c'est la force du récit qu'elle arrive à porter, pour moi, est incroyable. Tellement incroyable que j'ai eu envie de mimer un petit peu cette manière de faire, qui est pour moi tellement authentique et qui permet en fait une meilleure compréhension des autres, de se mettre à la place des autres. C'est une femme noire qui, pour reprendre le terme afropéenne, pourrait s'inscrire dans l'afropéanité. Donc j'avais envie en fait de m'inscrire aussi dans cette génération-là d'auteurs, parce qu'en vrai c'est aussi, je pense qu'on peut dans un gros trait parler aussi de génération d'autrices, du coup d'auteurs. Et en me disant que ce soit dans... Parce que là, j'écris aussi un film. J'écris aussi un film, que ce soit dans mes films, que ce soit dans mes récits journalistiques, de toujours placer une partie de moi aussi pour que ça fasse sens. Et aussi, c'est une manière, je pense, aussi pour moi, en tant que journaliste, de sortir un peu mon épingle du jeu, parce qu'on est aussi très formaté dans les écoles de journalisme parce qu'il faut avoir une certaine unité ou, je sais pas, unification de l'information, j'en sais rien. Mais... moi, c'est quelque chose qui... Je me suis vite rendu compte qu'il fallait aussi arriver à me distinguer. Et me distinguer dans cet univers qui est très blanc, qui est très bourgeois, c'est aussi arriver à raconter mes propres histoires. Alors, ça paye pas toujours, parce que les gens sont peut-être parfois très gênés par le fait d'aborder le point de vue d'une femme noire en France. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a porté et qui me porte toujours.
C'est vrai que c'est une forme de journalisme qui casse un peu les codes, comme tu disais, de ce qu'on nous apprend. Enfin, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais le « nous » est impersonnel, là, en l'occurrence. Mais de ce qui est, en tout cas, enseigné dans les écoles, etc. Est-ce que tu penses que, professionnellement, ça peut potentiellement te fermer des portes? Ou est-ce que, justement, en fonction des médias pour lesquels tu travailles, parce que tu travailles pas que pour RFI, tu travailles pour plein d'autres médias, tu adaptes un peu ton style et tu te frustres, en quelque sorte, ou dans certaines circonstances?
En fait, je pense que c'est difficile comme question, parce que ça me ferme des portes, clairement, parce que je pourrais très bien, et je connais des journalistes radio, télé, qui, pour y arriver, pour monter en grade, et on leur veut pas du tout, ont préféré muter leur identité. Souvent leur identité racisée, et là c'est pas que pour par rapport aux personnes noires, hein, les personnes aussi d'origine nord-africaine ou asiatique, ça c'est un peu, je pense aussi c'est une question aussi générationnelle, c'est aussi beaucoup de pragmatisme, de se dire qu'en fait si je mets trop en avant qui je suis, en fait on va pas me donner de taf. Moi, j'ai beaucoup de mal à j'ai beaucoup de mal à effacer qui je suis, donc ce qui fait qu'en fait pour moi c'était plus une question, même si j'ai essayé de le faire, enfin on en reparlera après, mais j'ai travaillé pour Public Sénat, et à Public Sénat mon vœu pieux c'était vraiment de que surtout personne ne voit que je suis une femme noire, alors que bon c'était évident, et quand on peut plus vraiment dépasser ça, ben en fait on embrasse totalement cette identité là et on en est fier, on la revendique. Maintenant je pense que je m'adapte énormément effectivement aux médias qui est en face de moi. Par exemple, je pense aux trois enquêtes que j'ai fait, aux deux enquêtes enquête et à l'article que j'ai fait pour Mediapart. Donc, j'ai écrit une enquête sur autour du comité Adama et des violences sexuelles qui y régnaient. J'ai fait une enquête sur le racisme au sein du monde des drag queens. Et j'ai aussi, pour la chronique de la haine, j'ai interviewé une jeune femme qui fait partie du comité des Français adoptés du Mali, qui, en l'occurrence, s'appelle Rachel, qui était adoptée et qui me parlait effectivement du racisme qu'elle a subi étant enfant. Et au final, quand on regarde, quand on dézoome, il y a un petit peu de moi dans chaque, effectivement, chacun de ces récits. C'est-à-dire que je suis une banlieusarde avant tout. Je suis une banlieusarde qui a constaté les violences policières et qui parle de ce point de vue-là pour effectivement parler donc du plus gros comité qui lutte contre les violences policières, mené par une femme noire en plus. Donc c'est pas rien pour moi, c'est très important aussi. Le monde des drag queens, évidemment, c'est la queerness, c'est la flamboyance que j'adore, mais j'ai vite constaté, en côtoyant ce milieu-là, qu'il y avait beaucoup de souffrance notamment et de racisme, et donc ça j'ai voulu m'en emparer. Et évidemment l'adoption ça me parle énormément, donc d'arriver, même si on parle de récits différents, moi je suis née en France de parents qui sont déjà noirs, immigrés certes, mais il y a tout ce récit là de départ qui me parle. Donc forcément il y a de moi aussi dans tout ça, mais quand je fais du podcast, même quand je fais du podcast aussi sans forcément parler de race, j'arrive quand même à mettre aussi un petit peu de moi. Je pense notamment au podcast que j'ai fait pour Louis Media, ou que ce soit Entre, où on parle de la masculinité d'enfants ou bien de jeunes garçons, où moi je suis partie interviewer donc un jeune garçon donc guadeloupéen, et ou encore quand j'ai fait mon épisode sur le sentiment d'insécurité. Je parle de mon point de vue aussi de jeune femme vivant en milieu urbain. Donc il y a tout ça qui saupoudre un petit peu ce que je fais. Pareil pour Move, je fais des reportages aussi pour Move, où clairement, encore une fois, j'ai mon envie d'aller en fait tout simplement interroger aussi ce que je vis, notamment les soirées safe entre filles que j'écume à Paris. Et ben j'ai fait un reportage aussi là-dessus, parce que c'est aussi en tant que journaliste, l'idée c'est pas seulement de commenter aussi l'actualité, je pense que c'est aussi de commenter ce qu'on vit, ce qu'on voit, et c'est ce qui permet aussi à beaucoup de journalistes racisés, queer, et qui sont aussi à la marge, de se distinguer, c'est qu'en fait, ils arrivent à écrire et à parler de choses qu'ils vivent, et donc ce qui fait qui échappent à d'autres journalistes aussi.
Bien sûr, c'est clair. Pour revenir à la politique, parce que tu sais que j'adore ça, je me suis souvenue, enfin, je suis allée voir les archives, tu étais intervenue sur Popol il y a 3 ans.
Ça
en février 2021, presque 3 ans, c'était parmi les premiers épisodes, t'as été parmi les premières intervenantes. Et je me souviens, à l'époque, je crois que t'étais à Dakar, si je dis pas de bêtises.
Je rentrais de Dakar.
Tu rentrais de Dakar, ouais. Oui, c'est ça, tu venais tout juste de rentrer.
Ouais, exactement.
Tu bossais là-bas pour Reuters.
Exactement.
Et tu m'avais raconté que tu avais un petit kink pour la politique qui te venait notamment de ton expérience chez Public Sénat.
Ouais.
Et je voulais quand même revenir là-dessus, parce que c'est vrai que on la sent, la dimension politique dans ton travail, elle est
bien sûr.
Assez évidente.
Oui, oui.
Mais tout le monde n'a pas cette expertise technique que tu as, et qui était très utile pour Popol, faut le dire. C'est clair. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même, parce que c'est assez rare en fait qu'il y ait des journalistes qui travaillent essentiellement sur des sujets de société qui ont attrait à la politique, évidemment,
oui.
Qui est aussi ce côté très technique et cette expertise technique de la politique.
Alors, mon kink de la politique est arrivé très tôt. En fait, chez moi, on parlait beaucoup de politique. On parlait beaucoup de politique, notamment, moi, je pense, j'ai commencé vraiment à être politisée et à m'intéresser à ça à partir de l'élection en 2007 de Nicolas Sarkozy, parce que ça a totalement détruit mentalement mes parents de savoir que Nicolas Sarkozy, qu'il détestait, soit élu président. Bon, ce qui s'est passé, c'est que, en plus, il soutenait beaucoup Ségolène Royal. Enfin, il y avait tout ce truc à la maison. C'était un peu. Il y avait aussi 2 ans avant les émeutes, enfin, le soulèvement urbain plutôt, en banlieue. Et moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché, parce qu'on habitait à côté de Villiers-le-Bel à l'époque. Donc, il y a tout cet engagement qui est venu déjà dès l'adolescence. Je me suis souvenu, je me souviens encore. Je me souviens encore que mon vœu, c'était d'être journaliste politique. parce que j'aimais beaucoup les débats politiques. Je trouvais que j'avais une certaine fascination pour les partis politiques, leur fonctionnement, tout le spectre, en fait. Je connaissais tout le monde. Je connaissais tout le monde. Et il y a aussi, encore une fois, pour revenir sur mes parents, c'est eux qui m'ont beaucoup initiée parce qu'ils passaient leur temps à écouter beaucoup de politiciens. Et ça, c'est dans beaucoup de familles émigrées. Ça, c'est un truc qui m'insupporte quand j'entends des gens dire à la maison, on n'avait pas accès à la culture, on parlait pas de politique. C'est faux. Dans une maison d'immigrés, on parle tout le temps de politique parce qu'en fait, l'enjeu, on peut pas seulement. On est obligé de savoir ce qui se passe dans le pays, en fait. Donc, on regarde beaucoup les informations et ce qui fait que j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste chez Public Sénat. D'abord RFI, il faut dire la vérité, d'abord RFI et ensuite Public Sénat. Et Public Sénat, pour moi, ça a été... En plus, j'ai commencé à bosser là-bas en 2016, donc au moment des primaires des Républicains. Donc ce qui fait que j'ai commencé à une époque, à un moment où la politique changeait. C'est-à-dire qu'on est à la fin, on est à la fin du mandat de François Hollande et on est dans un truc où il se représente plus. Et là, tout est possible. Et en fait, pour moi, ça a été un moment vraiment super important et fondateur pour moi en tant que journaliste, parce qu'en fait, je voyais beaucoup d'hommes politiques passer au sein de Public Sénat. C'était aussi, je passais beaucoup de temps au Sénat, donc on pouvait croiser Dominique de Villepin, Raffarin, qui venait de nous serrer la main en disant bonjour mademoiselle, alors vous êtes stagiaire, alors oh là là, c'est bien, c'est la jeunesse. Et t'es là, genre, tu dis, mais où je suis? Et surtout, moi, j'ai travaillé pour l'émission d'Hélène Risseur, Déshabillons-les, où en fait c'était vraiment du décortiquage politique. Elle a bossé pour Arrêt sur Image, et moi aujourd'hui, avec ce qu'on fait aussi avec l'Ajar, c'est aussi beaucoup de décryptage aussi médiatique et politique. Donc c'est quelque chose qui me parle, parce qu'en fait il faut être un fin observateur, il faut arriver à visualiser un petit peu les envies, les ambitions des gens, leur caractère, leur personnalité. Et ça, c'est quelque chose, au final, qui rend la politique, ou les hommes et les femmes politiques, particulièrement humains. Et il y a aussi un petit côté vicelard dans le sens où c'est des ambitieux et des ambitieuses, on le sait. Et pourtant, on va aller, parce qu'en fait, c'est des gens qui veulent aussi l'attention de la part des journalistes. Donc, il y a un côté donnant-donnant. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Et il y a aussi, j'aimais beaucoup Public Sénat parce que c'était aussi une chaîne de documentaires. Et quand on s'intéresse à la politique, il y a énormément, LCP et Public Sénat, il y a énormément de documentaires et d'archives et de matières pour t'intéresser, pour comprendre. Donc moi, c'était vraiment, c'est bizarre hein, de dire ça, mais j'étais le genre de personne, je suis toujours le genre de personne, à passer mes week-ends à regarder des documentaires LCP, Arte, parce qu'en fait, je veux...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Savoir. Et puis quand j'ai commencé aussi à faire du journalisme, je me suis aussi intéressée évidemment aux personnes auxquelles j'avais plus accès, donc tout ce qui était étudiants, mouvement étudiant. Donc c'est souvent, c'est eux qui deviennent les futurs députés, les futurs politiques de demain. Donc c'est vers eux que je me suis aussi tournée, vers les mouvements de jeunes aussi, des personnes qui étaient plus accessibles, tout leur parcours était assez, en fait, malheureusement similaire. Ça sentait beaucoup Sciences Po, ça sentait le côté je vais finir dans un cabinet, et puis c'est les relations se nouent comme ça. Aujourd'hui, j'ai préféré faire de la politique autrement. Là, on dirait vraiment une femme politique, je fais de la politique autrement, mais l'idée pour moi c'était de partir du principe que j'étais désormais, c'est ce que je suis, une journaliste société, qui parle de politique. Et en fait, tout est politique. Ce qui me permet de parler d'énormément de sujets différents. Là, par exemple, mes prochains podcasts qui vont sortir au début de l'année 2024 traitent du harcèlement scolaire et l'autre de l'homophobie en banlieue. Dans les deux cas, j'ai passé beaucoup de temps avec des enfants dans des collèges à éplucher la réforme, enfin le nouveau plan phare, notamment mené par Gabriel Attal dans les écoles, pour lutter contre le harcèlement scolaire, ce qui fait que j'ai, pour moi c'est évidemment politique tout ça, mais c'est aussi une manière pour moi de dire, je suis certes une femme noire journaliste qui aime et qui s'approprie toutes ces questions liées au racisme, mais pas que, c'est-à-dire que je peux tout aussi parler d'autres sujets, mais qui me constituent aussi. C'est-à-dire que j'ai eu tout un moment d'introspection, notamment pour le harcèlement scolaire, en me disant, bon voilà, on est des trentenaires maintenant, est-ce qu'on peut un peu se dire, se rendre compte de ce qu'on a fait à certaines personnes au collège ou au lycée ? Ça fait aussi partie de moi. Pareil pour l'homophobie en banlieue, c'est-à-dire que moi, mon idée, c'était aussi de démystifier un petit peu ça et d'interroger les plus jeunes sur ce qu'ils en pensent réellement et sur cette réalité aujourd'hui aussi. Donc, c'est des éléments qui font, encore une fois, partie de moi. C'est vrai que c'est très... Je me rends compte que mon journalisme fait vraiment très lion, parce que je suis lion du signe astrologique et ça fait vraiment genre moi. C'est atroce hein, en disant ça à voix haute, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que je me rends compte de ça, tu vois, c'est atroce.
Non, mais moi je trouve ça passionnant et vraiment intéressant. En plus que tu arrives à mêler la politique, là, tu penses bien que j'en suis ravie. C'est d'ailleurs pour ça, je le rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, qu'on aimerait pouvoir travailler ensemble.
Ah oui, totalement.
Je l'espère. On l'avait annoncé pendant la campagne de crowdfunding. Malheureusement, on n'a pas levé suffisamment d'argent pour le moment. Je touche du bois pour arriver à travailler ensemble. Mais bon, c'est toujours d'actualité.
On fera.
C'est à l'ordre du jour. Alors, peut-être pas pour demain, mais en tout cas, voilà. Donc, faites des dons à Popol pour que Estelle puisse bosser avec nous. Ce serait chambé. Non, mais du coup, voilà, pour revenir, moi, c'était quand même un prisme très important. Parce que, bah oui, c'est aussi une passion que je partage, la politique. Et je trouve ça toujours intéressant, effectivement, que tu aies ce regard sujet de société et que tu puisses y intégrer des éléments. C'est-à-dire que, voilà, s'il faut sortir le règlement de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de souci, quoi. On va regarder ce qu'il y a dedans et on va vous expliquer concrètement, comme ouais. Tu parlais, des enjeux, de ce qu'il y a derrière, etc. Ouais. Parce qu'en fait, nos vies, elles dépendent de ça aussi. Et arriver à le décrypter et à le rendre accessible, pour moi, c'est super important. Tu as aussi un engagement très fort pour une association qui s'appelle l'AJAR,
oui.
Dont tu es cofondatrice, si je ne dis pas de bêtises.
Porte-parole aussi. Porte-parole. Mais en fait, le truc, c'est quoi ? Je ne me définis pas comme cofondatrice parce qu'en fait, on était tellement beaucoup. On est au moins, je pense, une bonne quinzaine de personnes qui pourraient en fait se targuer d'être cofondateur de l'AJAR. Mais moi, ce que je dis, c'est Arnaud Pedram, donc journaliste chez France 24, et Redija Zerwali, donc journaliste chez Mediapart, qui sont les deux cofondateurs, parce que c'est de leurs deux petites têtes là que l'idée est sortie quand ils parlaient dans leur petite cuisine, là, la cuisine d'Arnaud. Et moi, j'ai fait partie des premières personnes à faire partie de l'AJAR, mais je suis porte-parole.
D'accord, super. Donc du coup, l'AJAR, est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous expliquer un peu ce que vous faites, quelles sont les actions en cours, quels sont les projets aussi à venir, ouais. Et puis j'aurai encore deux, trois questions après.
Ok, alors l'AJAR, donc, c'est l'association des journalistes antiracistes et racisés. Donc on s'est officiellement lancé avec une tribune en mars 2023 signée par 170 journalistes qui dénonçaient le racisme au sein de la profession, dont Rokhaya Diallo, dont Sébastien Follin, Grace Lee, notamment, qui ont très gentiment prêté leur image pour illustrer la tribune, parce qu'en fait aujourd'hui on est 200 journalistes, on n'est pas des chefs, on évite absolument les stars. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne font pas partie de la JAR et on nous a demandé pourquoi, mais c'est aussi parce que on voulait éviter les égos qui écrasent d'autres personnes qui peuvent être vulnérables dans notre association et qui sont journalistes pigistes par exemple. Il n'y a pas de chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rédacteur en chef ni de directeur de rédaction dans notre association. Ils sont plus là en statut de soutien. Je pense notamment aux personnes du Bondi Blog à qui on est hyper proche. Bah, c'est des personnes en fait qu'on a d'ailleurs invitées lors de notre soirée le 5 mai à la Flèche d'Or. Il y a aucun souci et je pense ils respectent aussi nos limites parce qu'on veut toujours essayer de protéger aussi nos membres. Donc on est 200 comme je le disais. On essaie absolument de faire à la fois un travail de lutte contre le racisme au sein du traitement médiatique. Donc ça signifie avoir une veille assez importante sur ce qui se fait. Alors ces derniers mois, disons qu'on a eu quand même pas mal de boulot. C'était assez difficile. Alors on a commencé assez fort. Franchement, c'est comme si on nous donnait du pain, genre tous les jours, et en mode, allez-y, faites-vous une tartine. On a commencé avec plusieurs décryptages, notamment on fait des threads sur notre compte Twitter, qui vient un peu démystifier, débunker des idées reçues, ou des tendances racistes de traitement médiatique qui arrivent, comme le fait de confondre systématiquement pour les journalistes des personnes noires, comme le fait d'avoir un racisme anti-asiatique totalement décomplexé, notamment pendant la période du Covid, ça a été très important, comme le fait de à plusieurs reprises, là on parlait de politique, d'hommes et de femmes politiques ou d'analystes politiques qui comparent souvent, qui font de l'anti-tsiganisme en parlant de d'Assemblée nationale de gitans, ou de journalisme de gitans, enfin voilà, c'est assez violent. Donc il y a ça. La JAR, c'est aussi évidemment un espace de parole et de soutien, c'est-à-dire que c'est avant tout pour nous un endroit où on veut que ça soit une safe space, on veut que ça soit un endroit où les gens puissent parler librement de ce qu'ils vivent au sein de leur rédaction sans pour autant être jugés. Donc nous, on a plusieurs comités, hein, on est structuré, comme on est beaucoup, on est obligé de structurer. Donc ce comité parole-soutien, moi, par exemple, je suis responsable du comité intervention externe, ce qui veut dire qu'on va dans les écoles, on va dans les universités. On va aller dans les écoles reconnues d'école de journalisme pour pouvoir sensibiliser les élèves, pas seulement au racisme dans la profession, mais aussi parce que c'est un peu notre leitmotiv de pouvoir expliquer aux journalistes et aux écoles qu'il est possible de produire une information antiraciste. Et ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est intentionnel. C'est intentionnel parce qu'on a des biais racistes, chacun, on est tous pétris, même nous, de biais racistes, que ça va notamment, c'est assez visible, notamment quand on parle de la banlieue des quartiers populaires, où en fait les journalistes arrivent en touristes dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Donc ça veut aussi dire qu'il faut aussi connaître son terrain, il faut connaître aussi les gens avec qui qu'on interroge. Ça veut aussi dire, par exemple, inclure plus de personnes racisées dans les sujets type marronnier, c'est-à-dire les sujets du quotidien, donc les sujets, on aura toujours des sujets à la rentrée, Noël, l'été, chasse et croisée, pourquoi ne pas effectivement intentionnellement aller voir des populations donc racisées, mais pas que, queer, à la marge, qui permettrait de normaliser aussi le fait que ces gens vivent tout simplement, et donc c'est aussi une manière pour nous de lutter contre le racisme, donc ça va aussi dans la programmation, la titraille, et donc on a un travail titanesque, et là en fait, j'ai pas envie de dire en mars, au printemps, on compte sortir notre kit à destination du public et des rédactions qui va recenser donc différentes thématiques antiracistes avec de la ressource, des définitions, du vocabulaire, des cas pratiques et une manière aussi de pouvoir traiter l'information de manière antiraciste. Donc ça, c'est un de notre but. Évidemment, dans nos adhérents, on fait aussi beaucoup de formations en interne pour pouvoir arriver, parce qu'en fait, on estime qu'on est aussi notre propre ressources, donc on se fait des formations en interne, ça peut être voilà, contre l'antisémitisme, contre la misogynie noire, voilà, tout genre d'éléments. Et encore une fois, c'est la JAR, c'est aussi un réseau, c'est-à-dire que, comme dit Redidja Zerwali, notre cofondatrice, c'est aussi le réseau des sans-réseaux, dans le sens où quand on fait partie de la JAR, on vient peut-être d'école ou pas, mais on n'a pas forcément accès à ce réseau parce qu'on a beaucoup de barrières qui nous sont mises dès le départ dans les écoles. Ça va être le fait que nos profs ne nous choisissent pas parce qu'on n'est pas leur petit poulain, ça va être le fait qu'on n'ait pas forcément eu le stage au Monde ou à France Télévisions parce qu'on n'est pas forcément dans cette norme-là, on n'est pas blanc, issus de la bourgeoisie, on est un banlieusard ou je ne sais quoi, ou quelque chose, voilà. Et ce qui fait que quand on est aussi un journaliste racisé, avec beaucoup plus de barrières, et l'idée c'est de se dire, ok, maintenant tu as accès à plein de journalistes. On a un lobby France 24, on a un lobby Mediapart, on a un lobby Street Press, Bondy Blog, on a énormément de gens qui ont énormément de talent, donc à la fois en télé, en radio, en presse écrite, en photo, en podcast, et l'idée c'est de se dire, ok, bah maintenant on a accès à tous, profitons-en. Donc voilà.
Est-ce que, du coup, là, ça va faire bientôt un an, dans deux mois à peu près, ça fera un an que l'association existe. Est-ce que, au sein de l'asso, vous avez déjà remarqué que vous êtes arrivé à changer des choses ?
Alors c'est vrai que nous on a eu une certaine frustration au début parce que on était persuadés naïvement que le racisme importait aux rédactions. Et en fait, on n'a pas été sollicité plus que ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup été sollicité par les écoles. Les écoles ont été les premières à nous solliciter, pas toutes, certaines ne veulent pas du tout entendre parler de nous. Ensuite, on a eu beaucoup de mal à essayer de... Pour l'instant, on n'a fait aucune formation, notamment dans les médias, dans les rédactions, même si on est en lien avec des responsables diversité de gros médias et de grosses instances, pour l'instant, ça arrive. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte du fait qu'on est d'abord une association jeune, on n'a pas encore fêté nos 1 an, mais c'est vrai qu'avec... nous, on est des personnes racisées, donc pour nous, le racisme, c'est une priorité. La lutte contre le racisme, c'est vraiment une priorité, et ce qui fait que... quand on se rend vite compte que des personnes qui effectivement sont soit blanches, qui ne vivent pas le racisme, ou voilà, dans un certain confort, de pouvoir traiter l'information raciste de loin. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'extrême droitisation du discours et du traitement médiatique. C'est le fait de pouvoir parler, inviter l'extrême droite de loin en se disant mais non, mais moi, on est des vrais journalistes, on interroge tout le monde sans regarder quoi que ce soit. Bah, bien sûr que non. On a pu voir ce qui s'est passé notamment avec la journaliste Barbara Olivier Zandronis qui s'est fait débouter de l'antenne sur RCI en Guadeloupe après son interview avec Jordan Bardella. D'ailleurs, on a aussi défendu, on est en contact avec elle. Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous arriver à parler à l'extrême droite de la même façon. Et ce qui fait que pour nous, c'est vrai que le bilan est assez positif. Si je dois vraiment finir sur une bonne note, c'est assez positif parce que on a vraiment créer des liens forts. On a pu se positionner médiatiquement parce que j'aurais dû commencer par ça. L'AJAR s'est fondée à l'image de l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT fondée par Alice Coffin, et prenons la une, donc qui est vraiment une réaction directe au mouvement MeToo. On a énormément de journalistes à l'AJAR qui font partie de l'AJL, énormément de journalistes qui font partie de PLU, ce qui fait qu'en fait on est 3 associations cousines, on discute très souvent ensemble, ce qui fait qu'on a, cette envie commune hein, de lutter évidemment contre les discriminations. Donc oui, globalement, je pense que c'est positif. Maintenant, on pourrait faire plus et tout ce qu'on a envie, c'est de toujours pouvoir faire en sorte que... qu'on puisse plus en fait dire voilà, en France il s'était rien passé à cette époque-là, le discours est passé comme crème, comme si c'était rien passé. Non, on était là, on a protesté, et ça c'est important de dire qu'on est une association corporatiste. Ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on fait partie des rédactions déjà. On fait partie de toutes ces grandes rédactions-là, sauf qu'on est minoritaire en tant que personne racisée. Voilà. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie, des journalistes qui nous contactent, qui ont envie, qui s'intéressent énormément. Je pense beaucoup, on a été plusieurs fois sollicités par Arrêt sur Image, qui apprécie notre travail de décryptage médiatique. Donc les choses bougent.
Et je me disais, lorsque vous avez fondé l'AJAR, est-ce que vous êtes inspiré d'un modèle ou d'une organisation, d'une asso à l'étranger peut-être, qui existe et qui fait déjà ce type de travail, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est sorti de manière totalement organique?
Non, bah alors, ça va nous être reproché, mais Arnaud Pedram, notre cofondateur, en fait... n'a pas pu faire ses études en France et est donc parti aux États-Unis. Ce qui fait que quand il est revenu en France pour pratiquer le journalisme, c'est vrai qu'il avait ce côté où il avait vu plusieurs organismes et syndicats journalistes, on va dire, divisés en différentes sections, type les journalistes latinos, les journalistes afro-américains. Et pour lui, c'était assez évident. Quand il est arrivé en France et qu'il a vu que c'était pas comme ça, qu'il n'y avait d'ailleurs pas du tout d'association journalistique parlant, je veux dire, qui lutte contre le racisme ou de cette manière-là, en fait, cette envie est arrivée et c'est comme ça qu'il a cofondé l'AJAR. Mais c'est vrai que nous, on voulait surtout, encore une fois, partir de l'AJL et de Prenons la Une, c'est-à-dire qu'on est une association qui est quand même franco-française. J'ai eu l'occasion, et d'autres personnes aussi dans l'AJAR ont eu l'occasion, de rencontrer ce que nous, on appelle nos doppelgangers européens, Et ça, c'est aussi un truc très important, c'est-à-dire qu'on est sollicité à l'échelle européenne. Donc j'étais à Berlin, notamment, j'ai pu rencontrer l'association aussi allemande qui lutte pour plus de diversité dans les médias allemands. On est en contact avec nos cousins belges aussi. Donc il y a pas mal de choses qui se passent aussi à l'échelle européenne, parce que c'est des pays qui ont envie de savoir ce qui se passe en France, pourquoi ça bascule autant à droite. Et donc avoir la JAR, pour eux, c'est peut-être une réponse aussi à leurs questions.
C'est clair. Petite dernière question, parce qu'on arrive déjà au bout de cet entretien. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, on en a un peu parlé en introduction, c'est le côté engagé, militant dans ton travail. Tu te dis journaliste militante, militante journaliste, comment tu te définis ?
Non, je me définis pas comme journaliste militante, même si, toujours pour citer Alice Coffin, clairement c'est le fait d'être engagé qui fait de moi une bonne journaliste. Parce qu'en fait, je connais tellement mon sujet autour du racisme, autour du féminisme, de l'afroféminisme, que en fait, ça me permet de voir, encore une fois, des choses et des éléments que d'autres journalistes ne verront pas, parce qu'en fait, ils ne sont pas spécialistes du sujet. Et malheureusement, en France, alors quand on dit en France, non, mais malheureusement, on va dire ces dernières années, surtout sur les plateaux télé, c'est surtout comme ça que qu'on peut le constater, on donne la parole à des éditorialistes ou à des personnes qui ne maîtrisent pas les sujets dont ils parlent. On a moins de reportages, donc qui permettraient aux confrères et aux consoeurs de pousser certains sujets. On a plus de débats, d'opinions, mais pas forcément de journalisme, on va dire, dans le premier sens du terme. Et moi, le fait d'être engagé me permet d'avoir ces connaissances en amont pour pouvoir traiter un sujet au mieux. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais me lever en allant parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui refusent de le faire. Et c'est aussi une bonne chose, parce que ça montre aussi notre intégrité, que d'autres personnes, les hommes, ont tendance effectivement à faire systématiquement, c'est-à-dire aller se lever en répondant « oui, oui, et bien sûr, je peux aller parler sur votre plateau de tel sujet que je connais pas du tout », comme ça, on le fait dans les informés. Donc, ce qui fait que je pense que le fait d'être conscientisé me permet effectivement de garder une certaine une connaissance profonde des sujets dont je parle. Mais ça, c'est important de le dire, parce que ça, c'est des questions qu'on m'a posées quand j'ai fait des interventions à l'école de journalisme. On m'a dit mais en fait, vous êtes pas neutre, vous êtes militante. Donc, comment en fait vous pouvez garder une certaine distance ? La distance journalistique, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Parce que c'est ce qui me distingue de certains journalistes qui font littéralement du militantisme et qui sont à la solde d'un agenda de communication. C'est pas parce que je défends des idées de gauche que s'il y a le moindre pépin, je vais pas t'épingler. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait l'enquête sur le comité Adama. Assa Traoré, c'est une personne que j'admirais. C'est une personne... J'étais la première fan Zouz. D'ailleurs, je vais retrouver une photo que j'ai prise avec elle il y a 5 ans. Comme beaucoup de personnes, j'avais le t-shirt, etc. C'est un combat contre les violences policières qui me tient toujours à cœur. Toujours. Simplement, quand il y a des faits, et c'est ça, en fait, il faut juste rester sur les faits. Quand il y a des faits qui sont apportés au public et qui sont très importants, c'est-à-dire que c'était un peu la condition pour Mediapart, c'était si l'information est d'intérêt public, on la publie. L'information, en l'occurrence, que j'avais, donc de personnes, donc de deux jeunes femmes qui ont subi des violences sexistes de la part donc de Samir Eliès, qui était littéralement un des militants de la première heure du comité Adama, pour moi, c'était important que les gens sachent que le comité, effectivement, en vitrine, lutte contre les violences, mais en interne, c'était autre chose. Ce qui fait que ça m'a pris... J'ai eu beaucoup, beaucoup de backlash, mais j'ai aussi beaucoup de soutien. J'ai aussi beaucoup de soutien, beaucoup de la part de femmes noires, et ce qui fait que moi, c'est aussi quelque chose que je revendique en disant j'ai pu faire cette enquête parce que je suis conscientisée et autour de tout ce qui est violence sexuelle et sexiste, mais aussi parce que je suis mon intégrité, ma déontologie journalistique m'a obligée à me concentrer sur les faits et les faits uniquement. Donc, les deux sont compatibles.
Ouais. Ce qui, du coup, te permet de ne pas être partisane, en fait.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on va encore une fois, j'ai pas envie de citer de nom ici, mais on a des journalistes qui sont proches du comité, qui se disent journalistes, et qui vont en fait littéralement filmer à la sortie du commissariat Samir Eliès qui embrasse Assa Traoré. C'est ce qui est arrivé notamment dernièrement à l'été 2023 après les soulèvements urbains en faveur de, enfin pour Naël. Et donc ça, c'est pas du journalisme, ça. On peut pas dire qu'on est journaliste et arriver comme ça à faire la communication, en fait, d'un comité, d'un parti. C'est pas possible. C'est ça, en fait.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup en politique. Et moi, je m'en rends compte parce que, comme toi, je pense que je me situe plutôt à gauche et j'essaie de défendre des idées plutôt progressistes et ce qu'on peut qualifier de gauche. Et souvent, on pense que je suis genre responsable com de LFI, alors que pas du tout.
Mais c'est vrai et que c'est l'image que t'as. Je comprends pas pourquoi les gens. C'est bizarre.
J'ai beaucoup de mal à comprendre aussi. Et quand bien même, par exemple, tu vois, quand il y a eu notamment l'affaire Quatennens, etc., ouais. Je suis moi aussi montée au créneau et j'ai des gens de LFI qui sont tombés dessus, quoi. C'est moi, en fait, je suis pas votre chargée de com, quoi.
Ouais, non, mais à poubelle, hein, les gens comme ça, non mais c'est que ça soit même Chikirou, enfin, hein, tous ces gens qui qui font du mal qui font du mal à la gauche, mais oui, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est garder une certaine intégrité. Toujours. Encore une fois, moi, demain, s'il y a des personnes qui défendent mes valeurs, mais qui font des choses qui sont illégales, qui font des choses qui contredisent leur discours, et ben en fait, il y a aucun souci. En tant que journaliste, c'est aussi notre devoir d'informer le public. C'est tout.
Est-ce que tu vois, du coup, j'ai encore une question. écoute, la discussion continue, on va arrêter à un moment donné, mais bon. Est-ce que tu te vois un peu, moi, parfois, c'est un peu ce que je me dis. Désolée de faire le parallèle, de dresser le parallèle, mais parce que je me reconnais un peu dans ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est pas un peu un rôle de vigie qu'on a ? Genre, si nous, on le fait pas, qui va le faire, en fait ?
Ouais, watchdog. Ouais, bah ça, c'est vrai que c'est à l'anglo-saxonne. Alors, encore une fois, c'est des choses qui nous sont reprochées de mimer un monde anglo-saxon. Mais en même temps, tu te dis, oui, mais le problème, c'est qu'en France, on n'arrive pas à reconnaître le fait qu'il y a un mélange des genres qui pue, qui pollue, qui a pollué la vie politique pendant tant d'années, qui continue toujours à polluer. Enfin, quand tu penses au fait que tu as quand même Anne-Sophie Lapix, qui est loin d'être la personne, la journaliste la plus dangereuse de France, qui a été écartée de l'interview présidentielle parce qu'en fait, non, ça arrangeait pas Macron. Tu dis, mais vous vous rendez compte de ça ? À un moment, les gens disent qu'effectivement, c'est exagéré, on peut pas être comme les pays scandinaves à avoir une espèce de... Bon, voilà, après... Des fois, c'est très très exagéré de démissionner pour une barre de chocolat payée avec sa carte de crédit professionnelle. Mais ce qu'on veut dire, c'est aussi on se doit en fait d'avoir cette rigueur en fait dans notre métier. On est obligé parce qu'en fait, il y a énormément, enfin ceux qui ne sont pas ceux qui ne vivent peut-être pas à Paris ou en région parisienne ne se rendent pas compte de l'esprit extrêmement réseautage, copinage qui existe, notamment dans le milieu journalistique où on se refile beaucoup les postes. Et en fait, et puis surtout, pardon hein, de dire, mais il y a beaucoup de personnes qui, bon après ça c'est, ils font ce qu'ils veulent, mais qui vont utiliser leur corps, qui vont utiliser leur outil, c'est comme un outil pour avoir des informations, pour avoir un réseau. Et ça c'est un truc, encore une fois, j'ai pas envie de aimer aucune personne là-dessus, mais c'est plus dans le sens où normalement t'es pas obligé de faire ça. Normalement, si on suit une certaine éthique, en fait on est censé pouvoir exercer notre métier sans devoir faire de la lèche à tel politique ou à tel rédacteur en chef et donc ce qui fait que en fait moi je trouve que, et encore une fois je reprends l'exemple de la JAR, c'est aussi ce qu'on lutte aussi contre ça, c'est-à-dire qu'on lutte aussi contre des barrières sociales, on lutte contre une prédestination sociale, contre tout cet environnement-là aussi. Moi quand je dis que je suis banlieusarde, c'est quelque chose que je revendique parce que je viens aussi d'un certain milieu où on voit, voilà, les gens n'arrêtent pas de dire qu'effectivement c'est que de la délinquance. Non, moi je vois beaucoup de solidarité, je vois beaucoup de gens qui essaient de s'en sortir et ça fait aussi partie de moi et c'est ça, du coup ça transcende dans mon journalisme et dans ce que je fais, quoi.
Eh ben merci beaucoup Estelle et merci d'être venue sur cet épisode de Popol
merci
Talk.
Merci à toi
pour parler de tout ça avec nous, c'était vraiment cool. Je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche d'argent, donc n'hésitez pas s'il y a des donateries.
Si vous avez de la moula.
Si vous avez un peu de moula, qui ont envie de nous aider à développer de nouveaux projets. N'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez maintenant nous soutenir avec des dons défiscalisés, puisque Popol est un vrai média reconnu. Oui, avec un agrément, tout ça, un vrai média. Et donc, du coup, bah, vous pouvez aussi nous soutenir. Vous avez la possibilité de faire des dons défiscalisés à hauteur de 66%. Donc, si vous nous filez genre 100 balles, ça vous revient à 34 balles, si jamais vous payez des impôts, évidemment, et que vous déclarez le don. Voilà. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode de Popol Talk.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.